On se tutoie sur Nostalgie. Jean-Luc Reichmann.
Il y a une petite rubrique très sympathique, puisque ça rime avec rubrique, qui s'appelle...
On se tutoie jusqu'à 20h.
Et maintenant, Jean-Luc te pose des questions sans filtre. Nostalgie.
C'est Jean-Luc sans filtre, en fait. Donc, on y vient progressivement à ces petites questions qui peuvent te chatouiller. T'as le droit de pas y répondre. Mais j'en suis maintenant à une bonne vingtaine de personnes interviewées depuis le début de l'année. Et elles y ont toutes répondu. Elles ne se sont même pas cachées derrière leurs petits doigts. Je ne te raconte pas. En deux mots, j'aimerais pas être à ta place. Tu vois ce que je veux dire? Là, je pense que c'est assez tremblant. La première question, tiens, justement, en parlant de questions sans filtre. Les enfoirés. Bon, depuis 2007, tu y étais et boum, tu y es plus.
Oui, j'y suis plus, mais alors, déjà, je continue vraiment à soutenir les enfoirés parce que malgré toutes les polémiques qu'on a pu entendre, ça ramène des sous pour des gens qui ont pas assez à manger. Donc, c'est pour ça que ça m'a toujours énormément surpris, les critiques sur les enfoirés. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Et puis, j'y suis moins, j'y retournerai peut-être, mais je trouve ça bien aussi que ça tourne justement.
Il y a un roulement,
c'est ça le but du jeu.
Et d'ailleurs, il n'y a pas de lassitude de ta part?
De la lassitude, pas vraiment, parce que c'est...
Tu te sentais utile, c'est ça? Et tu t'es senti moins utile?
Peut-être un peu, et surtout j'ai toujours pensé qu'il fallait, d'ailleurs je regrette que des gens comme, je sais pas, Julien Doré, Juliette Armanet, etc. n'aillent pas aux enfoirés, parce que ça, encore une fois, c'est quelque chose de vraiment utile, et c'est quelque chose de beau ce qui se passe avec le public, parce que le public...
Il y a une communion.
Fait vraiment partie des enfoirés. C'est une réalité, quand un spectacle des enfoirés, c'est très particulier pour nous tous, c'est quelque chose de très fort, parce qu'il y a vraiment quelque chose, et puis quelque chose d'utile, et nous et le public, on est utile à quelque chose.
Et maintenant que tu es spectateur ou téléspectateur, tu portes quel regard sur tes copains?
Je porte un regard toujours, évidemment bienveillant, parce que c'est mes potes, et un bon regard moqueur quand je les vois habillés, évidemment, quand même.
Il y a eu du grand. On était proche du Marité Gilbert Carpentier dans les années 70.
Et moi, j'ai toujours adoré ça.
Oui.
Bon, le jour de la diffusion, je t'avoue qu'il y a un peu des textos qui sont envoyés quand même aux uns et aux autres.
Ouais.
Des textos un peu moqueurs, d'ailleurs. Mais c'est notamment pour les enfants, c'est-à-dire que les enfoirés, c'est vraiment tout public, farouchement tout public, et Jean-Jacques avait toujours maintenu ça, et c'est encore maintenu, bien sûr. C'est vraiment l'esprit du truc. Alors, en effet, des fois on a des costumes ridicules, des fois on se plante, des fois tout ce qu'on veut, mais il y a ce côté réel partage, c'est-à-dire que c'est vraiment de la solidarité, quoi. C'est pas de la charité, et je pense que c'est ça qui déplaît à certaines personnes, parce que la charité, ça donne une position supérieure, quoi. Regardez-moi, j'aide telle ou telle personne. La solidarité, c'est pas du tout ça, c'est beaucoup plus proche, c'est je suis avec toi.
Oui, c'est pas du charity business.
On va se débrouiller pour que ça aille un peu mieux, parce qu'on est pareil. Mmh. Et justement, les costumes, cette proximité, cette forme d'amateurisme parfois dans les Restos du Cœur amène ça, et moi ça me touche infiniment, ça.
Ce qui te touche, alors je rebondis, c'était pas marqué sur mes petites questions là, mais tu parles quand même de gens ordinaires. Ce sont des mots qui sont dans le langage courant. C'est pas obligatoirement poétique, mais une situation ordinaire devient une situation où on se dit bonjour et on se dit merci, par exemple.
Oui, voilà, et on essaye de faire attention. Encore une fois, moi je fais pas du tout ça, mais j'essaye de faire attention quand même à mon prochain. Comme on m'avait appris quand je jouais de la trompette.
C'est quand même assez rigolo, donc je rebondis sur ce que tu dis, je ne suis pas un saint, mais je vois que Monsieur Bruno alias Benabar a été scout.
Oui.
Mais non, mais tu m'avais rien dit, on a passé quand même des soirées ensemble,
oui.
Et tu m'as pas dit que t'avais été scout, tu t'appelais comment quand
Parce
t'étais
qu'on
scout?
Parce qu'on a passé assez de soirées
voilà,
ensemble.
Voilà, c'est ça, mais quel était ton totem, comment tu t'appelais?
À vrai dire, j'en avais pas, j'ai été louveteau. Et un peu après, puis après j'ai arrêté, mais j'ai adoré être louveteau. C'est génial quand t'es môme. Après ça m'intéressait moins, parce que après je me consacrais surtout à recevoir des râteaux de la part des filles.
Oui, bien sûr, oui.
Ça me prenait pas mal de temps.
Oui.
Et quand t'es môme, tu vas en forêt, tu construis des cabanes, c'est quand même c'est génial, quoi. Et puis ce côté aussi qu'ont les scouts, le côté solidarité, c'est-à-dire qu'on est tous habillés pareil, il y a ce côté qui finalement n'est pas militaire, qui a un côté.
Vous êtes ensemble. Pour le retour de l'uniforme, Bruno Benabar? Est-ce que vous êtes pour le retour de l'uniforme, oui. À l'école par exemple?
Oui, oui. Tout ça, un uniforme, mais plutôt un uniforme d'animal, tu vois, de trucs comme ça, des trucs rigolos, des déguisements.
Oui.
Je suis pour le déguisement à l'école.
Voilà, c'est ça. Maintenant, l'équipe des dinosaures. Exactement. C'est ça qui est quand même très très intéressant. Oui. La jeunesse, puisqu'on en parle, la région parisienne, elle est vraiment en toi. Tu es un banlieusard, tu le revendiques dans tes chansons, tu habites en banlieue, et ça a toujours fait partie de toi. La campagne, non.
Pas beaucoup, maintenant je suis pas mal dans le sud,
oui.
dans le Vaucluse. Mais oui, je suis banlieusard définitivement, c'est-à-dire que tous les banlieusards d'ailleurs me comprendront, c'est quelque chose qu'on partage, on est banlieusard, c'est comme ça. Avec en effet cette petite guéguerre, bon, qui est une rigolade, hein, mais avec les Parisiens, etc., nous on est de l'autre côté du périph'. Ouais. Il y a cette forme de fierté, un peu d'insolence aussi vis-à-vis des Parisiens. Et un banlieusard reste un banlieusard, mais comme d'ailleurs un Parisien reste un Parisien. C'est quelque chose qu'on a ancré en soi, et c'est comme ça en fait.
À l'époque, il y avait les titis parisiens, il y avait les guinguettes, te vois avec le bandana, tout comme Renaud d'ailleurs quand il a commencé avec sa petite casquette, sa petite gapette et sa petite mobilette, tout ce qui rimait en hête, il l'avait.
Exactement.
Quoi.
Bah ouais, moi j'ai toujours ce goût, et puis c'est vrai que je trouve la banlieue magnifique. Moi ça me touche. Sur mon dernier album, j'en ai fait une chanson d'ailleurs, et ça me...
Le prochain qui va sortir en automne.
Ouais.
Ah bah tu avais rien dit, bah tu nous dis rien.
Ouais, ça s'appelle Ma banlieue vue de drone.
D'accord, vue d'en haut alors.
Exactement, d'accord. Et je raconte cette banlieue-là dont je viens et que je trouve vraiment magnifique. Quoi.
Mais il n'y a que toi quand même, parce que les gens se disent, c'est vrai que sur Nostalgie, on est énormément en province, l'image, c'est des immeubles, c'est des cités, c'est de la violence, tout ce qu'on voit dans les journaux, tout ce qu'on voit dans les infos, c'est de la grisaille. Ouais. Toi, tu te dis, et tu dis aux gens dans ton nouvel album, donc à l'automne, ouais, la banlieue est belle.
Oui, parce qu'il y a tout ça, en effet, c'est la banlieue qui est toujours mise en avant, les cités, les problèmes dans les
bien
cités,
sûr,
les bagnoles qui crament et tout ça. Mais, et donc, c'est exact, mais il y a aussi des maternelles, il y a aussi des piscines, il y a aussi des restos, il y a des gens qui vivent. Et puis, c'est vrai que j'ai un peu une nostalgie de ma banlieue des années 70, avec les papiers, avec les casquettes, les bars tabac et tout ça. Il y a aussi cette banlieue-là, un peu à l'ancienne, un peu Amélie Poulain, c'est vrai qu'il me touche un peu, moi, pas, ça me rappelle mon grand-père.
Mais, et Jean Gabin, etc.
Voilà, tout ce côté-là, cette imagerie-là, mes grands-parents italiens qui sont... Je suis né en banlieue à Thiers d'ailleurs, qui sont venus à Thiers dans le ghetto rital, entre guillemets, à l'époque. Mm-hmm. Et toute cette période-là, évidemment, c'est mon enfance aussi. Donc c'est un côté un peu Madeleine de Proust.
Ouais. Qu'est-ce que tu leur dirais à toutes ces personnes pour défendre la banlieue? Parce que je ne savais pas que ce titre était sur ton prochain album. Par rapport à la thématique, bien sûr, que tu vas aborder, tu te dis que c'est pas mort tout ça, que tu as encore l'espoir, qu'il y a encore des yeux qui brillent quelque part?
Ah oui, et puis moi je leur dirais que je crois vraiment que c'est nous qui sommes du bon côté du périph'.
Ouais.
Notamment ce que pensent les Parisiens.
Ah non, ça c'est intéressant. De l'autre côté du périph', c'est intéressant.
Du bon côté du périph'.
Ouais. Non, mais c'est bien. Oui, c'est assez intéressant. Avant de parler du sujet qui titille, l'intelligence artificielle, est-ce que tu t'en sers au quotidien? On en parlait et on en parle en rigolant. Moi, je suis ni intelligent ni artificiel. Toi, tu m'as dit tout à l'heure, avant de rentrer, tu m'as dit quoi?
Je suis un idiot authentique.
Voilà, entre l'idiot authentique et l'intelligence artificielle, tu t'en sers quand même, parce que je demande, tu vois, j'ai demandé à Julien Clerc, à Jeanne Mas. Jeanne Mas se sert énormément pour ses pochettes, elle nous l'a dit, pour cette pochette d'album. C'est elle qui les façonne comme elle a envie, comme un portrait, comme un tableau. Je lui parlais de l'inspiration de Frida Kahlo, d'ailleurs, on se rappelle, ici dans le studio. Elle était à ta place il n'y a pas si longtemps que cela. Toi, au quotidien, l'intelligence artificielle, ça te sert à réfléchir, ça te sert à composer, ça te sert à écrire?
Pas encore. Je commence à m'y mettre dedans avec méfiance et évidemment avec passion, parce que c'est quand même dément. Ça va changer notre vie. On l'a tous compris. Mais pas encore, parce que je crois qu'il faut justement la maîtriser un petit peu. C'est-à-dire qu'il faut pas être l'esclave de l'intelligence artificielle. Ce qui est, notamment pour les mômes, il faut vraiment les éduquer à savoir s'en servir, mais comme un outil. C'est-à-dire que les outils, c'est avec une tronçonneuse, tu peux couper du bois et tu peux aussi découper ton voisin. Tu vois, les outils, ils ont tous des bons côtés.
C'est arrivé près de chez vous, effectivement.
Exactement.
Dans la banlieue et ailleurs, d'ailleurs, que ce soit clair, je me rappelle très bien.
La banlieue de Bruxelles.
Oui, bien sûr. C'était quoi? C'était Benoît Poulvort.
Ouais.
Hein, on est d'accord. C'est intéressant, cette image. J'avais pas du tout l'histoire de la tronçonneuse. C'est vrai que ça fait un peu peur, mais bien, je te comprends. Et enfin, voilà, évidemment, ce qui te draine, ce qui te motive, c'est bel et bien la chanson, les paroles. Alors, t'es auteur-compositeur, donc tu fais un petit peu tout. c'est une addiction. On va parler des addictions puisque voilà, on se dit tout, on est tranquille là-dessus.
La réputation est faite, hein, tu sais.
Ouais, ta réputation est faite. T'en es où? Tu te sens comment par rapport à tout ça? C'est vrai que voilà, on aime partager. Le partage, il est plus important que tout. On a partagé des très très bons moments sur Matéi. Il y a la musique, il y a la boisson, il y a les copains. De temps en temps, c'est trop. Tu le sens? Ça se passe comment? Parce que
bien sûr.
Parce que on peut en parler tranquille.
Ouais,
ça te dérange
pas? Non, pas de problème. On est. Bah, c'est toujours à la limite du dérapage. D'ailleurs, j'en ai eu, enfin comme tout le monde. Mais c'est quelque chose qui paraît, qui doit pas dévorer le reste de la vie, quoi. C'est, qui doit rester à sa juste place, y compris dans des fois aller trop loin, parce que c'est pas mal aussi de se lâcher entre guillemets tant qu'on fait de mal à personne, bien sûr. Mais après, c'est quelque chose qu'il faut surveiller. Ouais. Faut surveiller tout le temps. On n'est jamais
vraiment.
Tu te fais
aider pour ça ou pas?
Oui, j'ai un très bon caviste.
Ouais, ça c'est important. Il s'appelle Nicolas Premier.
Exactement. Il est riche.
Ouais,
il est riche.
Grâce à toi et grâce à tous eux, bien sûr, qu'ils vont devoir en tourner.
Ah oui, puis il y a cette culture-là de tourner aussi, les copains dans le bus, les blagues. C'est vrai que ça fait vraiment partie de ma vie, mais je suis pas du tout complaisant avec moi-même.
On se tutoie sur Nostalgie.
Avec Jean-Luc Reichmann. Tous les vendredis soirs, 19h-20h. Et à tout moment en podcast sur l'appli Nostalgie.